En ce lundi 18 mai, nous avons été déconfinés. Cela reste une bonne nouvelle pour certaines familles dans des zones vertes qui peuvent maintenant se balader sans trop se soucier des amendes. Elles pourront se déplacer dans un rayon de 100 km. Et elles doivent être munies d'une attestation pour aller au-delà. Mais dans la plupart des régions, cela n'est pas le cas. Ils sont toujours confinés. Mais dans tous les cas, cela ne change strictement rien. Tout le monde reste chez soi, travaille chez soi. Pour moi, le déconfinement, ça a été une très grande joie et je m'en suis aperçu le soir même que nous étions déconfinés. Nous pouvions alors nous déplacer librement dans un rayon de 100 km, ce qui nous laissait une vague ouverture pour des possibilités de voyage ou pour aller faire les courses à l'autre bout de la région toulousaine. Mais cela n'a rien changé quasiment, car je reste toujours chez moi, je travaille toujours chez moi. Et je ne sors qu'une fois par journée. Donc, ça n'a strictement rien changé. Bonne soirée.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans une nouvelle émission. Et aujourd'hui, nous allons interroger une jeune collégienne. Mademoiselle, pouvez-vous vous présenter ?
Alors, bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 12 ans, je suis au collège Sainte-Thérèse et je suis ravie d'être ici.
Merci, merci. Maintenant, pouvez-vous répondre à quelques questions ?
Avec plaisir.
Avez-vous été soulagée lorsque le confinement a été décidé ? Ou cela vous a-t-il dérangé ?
Alors, au début, j'étais un petit peu inquiète parce que je savais que ça allait durer longtemps. Je n'allais plus revoir mes amis, je n'irais plus au collège. Mais je pense que c'était la bonne décision à prendre. Parce que grâce au confinement, maintenant on a beaucoup moins de cas de coronavirus et c'est bien parce qu'on reprend petit à petit une vie normale.
Comment s'est passé votre déconfinement ? Et quelles sont les mesures que vous avez prises pour vous protéger ?
Mon déconfinement s'est bien passé, j'étais satisfaite parce que j'ai commencé petit à petit à reprendre ma vie normale, à pouvoir sortir de chez moi, me balader sans attestation, pouvoir marcher juste simplement, dire bonjour aux gens et profiter. Alors, mes mesures de sécurité, je mettais toujours le masque pour sortir. Enfin, quand j'allais dans des endroits, centres commerciaux et tout, mais quand je vois juste mes amis, pas besoin, je pense que je garde juste le mètre de distance, c'est très important. Et puis quand je rentre chez moi, j'enlève mes chaussures et je me lave les mains. Et je n'oublie jamais mon gel hydroalcoolique quand je sors.
Pourquoi êtes-vous revenu au collège ? À quelle fréquence allez-vous en classe ?
Je suis revenue au collège parce que je trouve que c'est comme, enfin, j'aimerais bien retrouver ma vie. Moi, j'ai pas vraiment peur du coronavirus. Je pense que si je respecte tous les gestes barrières, je ne ramènerai pas le coronavirus chez moi. Donc, j'avais besoin, moi, de retourner pour revoir mes professeurs parce que c'est bientôt la fin de l'année et j'aimerais quand même les revoir avant la fin de l'année. Et puis comme ça, je revois aussi mes amis, mes camarades parce que j'avoue qu'ils m'ont beaucoup manqué.
Quelle est votre impression sur le retour au collège ?
Alors moi, j'aime bien ce retour parce que du coup, je refais un petit peu ma vie normale. Mais il y a beaucoup, beaucoup de règles. C'est vrai que parfois, il y a des choses un peu dures à faire entrer dans le cerveau, comme se laver les mains avant de rentrer en classe et après, et même après en sortant. Et après, même garder distanciation sociale, c'est difficile parce que moi, quand j'ai l'habitude, et je me suis rendu compte de ça avec mes amis quand je parlais, que quand on parle, en fait, mon corps va tout seul vers les personnes. Je m'approche comme ça. Et à chaque fois, mon cerveau me dit « Mais non, ne t'approche pas !» Du coup, c'est difficile quand même. Mais on arrive quand même à garder distanciation parce que c'est important.
Que faut-il faire, à votre avis, pour éviter la propagation du virus ?
Respecter toutes les règles, ça veut dire la distanciation d'un mètre, se laver les mains, en fait, pas toucher son visage quand on sort dehors, quand on touche des choses, mettre un masque et surtout tousser dans son coude.
Considérez-vous que la maladie de Kawasaki soit dangereuse ?
Oui, je pense, parce que si on prend pas ça au sérieux et qu'on se laisse aller, et on peut faire un arrêt cardiaque.
Où avez-vous entendu parler pour la première fois de la maladie de Kawasaki ?
C'était avec une copine, elle me demandait si je connaissais, et je lui ai dit que je ne connaissais pas. Et du coup, depuis ce jour, je prends ça quand même au sérieux, parce que c'est dangereux.
Bonjour chers collégiens, le 11 mai, la France est passée à une phase de déconfinement total. Une majorité des Français ont pu sortir de chez eux sans attestation et ont eu le droit d'aller jusqu'à 100 km de chez eux, car la situation de l'épidémie s'améliorait, ce qui nous permettait de reprendre l'éducation et le travail. Mais est-ce que un déconfinement trop rapide ne risque pas de mener la France à une seconde phase de crise sanitaire et à un reconfinement ? Je pense qu'il est bien et juste d'arrêter le confinement, même si c'est temporaire, car il a été très dur pour certaines personnes, seules ou âgées, de rester confinées sans sortir. Il leur faut une pause, mais tout de même, il faut rester vigilant à ce que le virus ne se propage pas à nouveau et que nous soyons à nouveau confinés.
Nous savons tous que le déconfinement est en cours. Mais est-ce une bonne idée ? Y aura-t-il une seconde vague ? Et si oui, quelles seront ses conséquences ? Sait-on quels sont les effets secondaires du coronavirus ? Et les enfants ? Sont-ils réellement protégés ? On nous a dit qu'il n'y avait aucun risque. Mais des preuves sont venues contredire cette affirmation. À plusieurs endroits dans le monde, certains enfants ont contracté une étrange maladie inflammatoire qui s'attaque au cœur, au vaisseau, et à d'autres organes internes tels que le tube digestif. Nous ne savons pas encore beaucoup sur cette maladie, mais de plus en plus de pédiatres et de scientifiques pensent qu'elle pourrait avoir un lien avec le Covid-19. Ce que l'on sait, et ce qui étonne dans cette nouvelle maladie, c'est qu'elle présente des symptômes similaires à ceux observés dans une maladie déjà connue, la maladie de Kawasaki, qui touche généralement les jeunes enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Toutefois, à la différence de cette dernière, la réaction inflammatoire apparue avec le coronavirus s'attaque aux enfants allant de 3 à 17 ans. Les spécialistes pensent que les enfants peuvent développer des symptômes proches de la maladie de Kawasaki environ 3 semaines après avoir été en contact avec les personnes ayant le coronavirus. Mais un enfant peut avoir le coronavirus sans avoir cette maladie inflammatoire dont les principaux symptômes sont les suivants. Fièvre forte qui ne baisse pas malgré le traitement. Sécheresse des lèvres, saignement. Perte de peau de la paume des mains. Taches rouges sur le corps. Douleur abdominale. Le risque le plus grave de cette maladie est l'inflammation des vaisseaux du cœur, ce qui peut être mortel. Globalement, cette réaction inflammatoire reste rare. Mais il faudra sans doute du temps pour avoir des informations plus stables. De plus, parmi les enfants développant des symptômes proches de la maladie de Kawasaki, peu sont décédés, ce qui veut dire que la majorité des enfants, bien qu'avec ces complications, guérissent.
Bonjour madame, que pouvez-vous me dire à propos de vous ?
Bonjour, je suis Céline Lautridou, j'ai 45 ans, j'ai deux enfants de 13 et 15 ans, et je vis à Colomiers, je suis opticienne.
Ok. Céline, comment avez-vous vécu le confinement ?
Eh bien, ça a été une période un peu à part. On a vécu un petit peu dans une bulle, en famille. Effectivement, donc on n'a vu personne, on n'est pas sorti, mais on a trouvé un rythme à nous, et ma foi, ça s'est plutôt bien passé. On a trouvé des occupations, chacun individuellement, et puis on s'est retrouvés aussi pour des activités ensemble.
Super. Quelle était la première chose que vous avez voulu faire après avoir été déconfiné ?
Eh bien, c'est pas précipité dehors en se disant ça y est, c'est la liberté, on peut à nouveau faire comme avant. Le déconfinement s'est fait très doucement pour nous, d'abord avec mon retour au travail. Et la première chose que l'on a faite, en fait, c'est de rendre visite à mes parents le week-end suivant le déconfinement, donc quasiment une semaine après.
À propos de votre travail, quel impact ont eu les mesures de prévention et de protection par rapport à celui-ci ?
Alors, beaucoup de choses ont été mises en place. dans mon travail, on est vraiment au contact du public. On reçoit des clients tout au long de la journée. Et donc, il a fallu s'organiser. Nous portons le masque en permanence dans le magasin. Nous nettoyons régulièrement les surfaces. Donc, on fait très attention que tout soit bien rangé pour justement pouvoir facilement ranger, nettoyer.
Oui.
Désinfecter, tout ça. Il y a aussi toutes les lunettes qui sont proposées à laisser à nos clients qu'il faut systématiquement mettre de côté et laver, décontaminer, si on peut dire, pour qu'elles soient sans risque pour les clients suivants qui pourraient les toucher.
Oui.
Donc ça prend plus de temps. On a aussi mis en place un système de rendez-vous le plus possible pour échelonner un petit peu les visites de nos clients, qu'on n'ait pas trop de monde en même temps dans le magasin. Voilà essentiellement les mesures qu'on a prises par rapport à nos clients. Après, c'est une surface qui est relativement petite. Nous sommes trois à travailler dans le magasin et respecter les distances sociales, ça n'est pas toujours facile.
Oui.
Donc on fait très attention de se laver les mains souvent entre chaque client. Mm-hmm. Mais c'était un peu stressant. J'avais le sentiment qu'on faisait de notre mieux, mais qu'il y avait sûrement des choses qu'il aurait fallu faire en plus ou différemment. Donc ça a été une reprise un peu stressante au début.
Okay.
Maintenant ça va mieux, on a pris un rythme et on arrive à oublier qu'on porte le masque toute la journée et on travaille un peu plus sereinement.
Eh bien écoutez, merci beaucoup pour vos réponses Céline, et puis à la prochaine.
À bientôt Cédric, merci.
Au revoir.
Bien bonsoir mes chers invités, nous voici sur le plateau d'info Corona. Après la visite surprise de Macron à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ce soir nous allons parler de la condition des médecins. Vous le savez, mais ce sont nos combattants dans la guerre énoncée dans le fameux discours de Macron. Dans le monde, il y a 4,53 millions de cas, dont 90 000 sont des médecins. Mais en même temps, comme nous le savons, peut-être déjà ils ne sont pas traités de la même façon dans le monde. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Mais en attendant le début de ce reportage, applaudissons nos soignants tout de même. C'est signé Augustin Labatte, on l'écoute. Vous avez sans doute déjà entendu ces noms de médecins dans les médias. Sylvain Welling, Capkeo Souvan Lassi, Olivier Schneller. Ou alors avez-vous entendu parler de médecins venant de Chine, Haifen. Ou alors ce médecin, Li Wenliang. Ces personnes sont tous été des médecins qui ont eu affaire au coronavirus, venus de pays différents. La France a été un des pays les plus touchés par le coronavirus. Elle compte plus de 140 000 personnes contaminées et plus de 27 000 morts, dont 36 médecins. Les soignants manquent de moyens, comme dit un soignant de Mulhouse. Des gens qui meurent sans leurs proches à côté. En effet, les capacités de réanimation sont déjà saturées. Pas plus loin qu'hier, moi j'ai craqué. Il y a une autre collègue qui a craqué. J'ai pleuré parce qu'on a des gens en charge et qu'on découvre qu'une heure ou deux avant, ils étaient bien éveillés, avec 15 litres d'oxygène quand même. Et deux heures après, les gens meurent. Les soignants sont ainsi terrorisés par la perspective de mort due au Covid-19. Voyant des gens mourir en une ou deux journées, alors qu'ils étaient en forme avant, certains agents ont fait preuve d'un engagement remarquable. En tant qu'employeur, l'État souhaite marquer sa reconnaissance envers ces personnes à travers le versement d'une prime défiscalisée d'un montant maximal de 1 000 euros net. Mais certains fonctionnaires de la santé se sentent exclus de cette prime et protestent, y compris les étudiants en médecine, qui travaillent dans les hôpitaux, et les pharmaciens et d'autres spécialistes de la médecine. Dans son déplacement vendredi, plusieurs médecins ont senti que cet engagement n'a pas été respecté, comme lui rétorque un neurologue. Oui, vous pouvez compter sur moi, mais l'inverse reste à prouver. Quand la situation des médecins reste grave en France, alors en Chine, elle est catastrophique. Avant la prise en main de la situation par la WHO, ce nouveau virus a largement été censuré par le gouvernement chinois, le Parti communiste. Et les lanceurs d'alerte ont été portés disparus, ou alors sont morts, car le gouvernement n'a pas agi plus tôt. Parmi eux se trouvent Chen Qiushi, un avocat et célèbre lanceur d'alerte. Il figurait parmi les figures les plus importantes du mouvement des citoyens journalistes, un mouvement qui enquêtait sur les suites du virus. Il a pris le premier train de Hong Kong et il est parti à l'épicentre du virus pendant 2 semaines, affiné Wuhan, et qui ont ainsi informé des millions de gens de la situation. Sur une vidéo, Chen Qiushi insulte directement le parti communiste du pays et s'en prend aussi au président du pays, Xi Jinping. Il dit « Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose de choquant. Allez vous faire foutre, je n'ai pas peur de la mort. Vous pensez que j'ai peur du parti communiste ?» Le 6 février, il est porté disparu, 7 jours après la publication de cette vidéo. Cela fait 2 mois que personne n'a entendu des nouvelles de lui. Mais ce n'est pas le seul lanceur d'alerte venant de Chine à avoir été censuré. L'ancien épicentre du virus était Wuhan, mais maintenant ce sont les États-Unis, pays le plus touché du monde avec plus de 1,4 million de cas et plus de 88 000 morts. Mais le président se veut être rassurant et dit que la situation est contrôlée dans le pays. Mais se fait contredire en permanence par ses médecins. Dans un pays où les soins ne sont pas remboursés et où plus de 27 millions n'ont pas de couverture médicale, dans le quartier de New York, le Queens, la situation a presque tourné à l'apocalypse. Les queues pour la nourriture sont tellement longues que la distanciation sociale ne peut pas être respectée. Parfois même, il ne reste plus de nourriture. Le nombre de cas se multiplie de jour en jour et les quartiers les plus pauvres sont les plus touchés. Les médecins sont au bord des moyens, n'ayant pas de masque ni de protection adaptée. Les hôpitaux sont très vite saturés, malgré le fait que personne n'y aille, car le coût reste trop cher. Merci beaucoup pour ce reportage, même si cela n'a pas été très gai. En attendant, applaudissons nos soignants et à la semaine prochaine.
Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une interview sur le coronavirus en Amérique avec quelqu'un qui a passé 4 ans en Amérique.
Bonjour, je suis Madame Nicole et j'ai passé 4 ans dans l'État de Virginie où j'ai travaillé pour l'OTAN.
Pourquoi, pour vous, les États-Unis a été le pays le plus touché par le coronavirus ?
Alors, principalement pour 2 raisons. Parce que le président des États-Unis n'a pas pris en considération la réelle dangerosité du virus, de cette pandémie. Et le deuxième point, c'est un système de santé extrêmement précaire. Et tout le monde, malheureusement, aux États-Unis, n'a pas accès à la santé.
Penses-tu que Donald Trump a aidé ou aggravé la situation ?
Alors, incontestablement, Donald Trump a aggravé la situation, puisque dès le début, il a considéré et il a comparé le coronavirus à une simple grippe et il n'a jamais pris en compte la gravité de ce virus.
Pourquoi penses-tu que New York a été un des États les plus touchés ?
New York a été un des États les plus touchés parce que la densité au mètre carré est très importante. Il y a une très très grande population à New York. Et d'autre part, il y a aussi beaucoup de voyageurs qui ont probablement ramené le virus sur New York.
En Amérique, il y a eu plusieurs manifestations contre le confinement. Les Américains ont perçu ça comme un vol de leur liberté. Que penses-tu de ces manifestations ?
Alors, les Américains sont effectivement très attachés à leurs droits constitutionnels, notamment celui de la libre expression. Malheureusement, ces manifestations sont quand même contre-productives, car il y a un véritable risque de propagation de la pandémie avec l'ensemble de ces rassemblements.
Et pour finir, est-ce que les Américains devraient-ils être déconfinés ?
Alors surtout pas, car aujourd'hui, les États-Unis restent l'un des pays où il y a le taux de mortalité et le taux de propagation de la pandémie le plus important. Donc malheureusement, pour le bien de tous, ils devraient, je pense, rester encore confinés.
Merci, c'était une interview par Tommy Yonkam.
mercredis matin, les élèves doivent assister aux cours virtuels. À 7h40, mon réveil sonne. Je l'arrête. Bien que fatiguée, je me lève et me dirige vers la salle de bain pour faire ma toilette. Je cherche mes cahiers, puis m'installe sur ma chaise de bureau. Ma journée de travail peut commencer. Quand le professeur annonce la fin du cours et que je me rends compte que c'est la pause déjeuner, je suis soulagée. Avant de déjeuner, je sors prendre l'air, le soleil éclatant dans mon jardin. Je m'assois dans l'herbe et écoute les chants des oiseaux. Puis, après quelques minutes de calme total, on m'appelle. C'est l'heure de manger. Après le déjeuner, je joue un peu du piano avant de retourner dans ma chambre. J'aime beaucoup le son doux et mélodieux que produisent les touches de piano. Mais malheureusement, bientôt, mon téléphone indique 14h et je dois à nouveau me remettre devant mon ordinateur. Finalement, ma journée de travail est terminée. Je suis assez fatiguée, mais contente d'avoir enfin terminé. Je suis fière du travail que j'ai fourni. Alors, je prends l'air et je me repose. Je fais ce que je veux.
Nous étions des chasseurs et des cueilleurs. Sans limite. Avec pour seule frontière, la terre, l'océan et le ciel. Cet appel des grands espaces résonne encore en nous, comme un rêve d'enfant, presque oublié.
Cette journée est comme toutes celles qui l'ont précédée à partir du confinement. Je peux enfin me reposer et respirer. Une journée de cours virtuel après le déconfinement. Travail de prise de son par Maya Del Ponrico, Collège Victor Hugo Colomiers, classe 5e 3, année 2020.
Merci beaucoup d'avoir écouté ces extraits jusqu'à la fin qui ont été réalisés par les 5e 3 du Collège Victor Hugo de Colomiers avec l'association Fil Rouge dans le cadre du parcours laïque et citoyen en 2020. Merci beaucoup, au revoir.